Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et bonsoir, bonne journée, ça y est, le week-end est terminé. Et oui, nous sommes avec vous, nous sommes sur l'entre-deux-tours de la présidentielle. Ça va être un petit dimanche un peu plus calme, peut-être pour vous. Comment ça va mon Pierre?
Ah ben moi ça roule, j'attends calmement le second tour pour savoir ce que je vais faire.
Bon, mais en tout cas, nous, bon, je sais. On va parler, ça roule, on va parler de quelque chose d'assez exceptionnel, de tout ce que les simulateurs de conduite aujourd'hui permettent de faire.
Ouais, ça c'est capital, parce que la formation au permis de conduire, je trouve que cette campagne présidentielle a été marquée quand même par le fait qu'on a pas assez parlé des sujets consacrés à l'automobiliste. On s'est focalisé sur un sujet hautement important qui est celui des carburants, de la fiscalité sur les carburants. On verra ce que ça donnera d'ici une quinzaine de jours. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on en a oublié la formation au permis de conduire, avec notamment toutes ces innovations qui vont permettre de mieux conduire, d'effacer les disparités régionales. Parce que quand on passe le permis à Paris ou quand on le passe en province, c'est pas la même situation de conduite. Bref, il existe des solutions numériques comme le simulateur de conduite qui enchaîne les prix d'innovation de sécurité routière. Donc on ne s'est pas embêté, on a pris le meilleur, il passera l'émission avec nous.
Les questions que je vais vous poser aujourd'hui, émission spéciale sur ces fameux simulateurs de conduite, sont les suivantes. Avez-vous confiance dans ces simulateurs de conduite pour apprendre à conduire dans les auto-écoles, oui ou non? Selon vous, quels sont les points positifs ou les points négatifs des simulateurs de conduite? Avez-vous d'ailleurs, vous aussi, appris à conduire en partie ou totalement sur un simulateur de conduite? Vous nous retrouvez au 0800 26 300 300. Et puis nous allons aussi ouvrir un autre sujet grâce au simulateur de conduite, c'est réapprendre à conduire après un grave accident ou tout simplement parce que vous êtes porteur d'un handicap. Si vous avez eu l'occasion de tester ces simulateurs de conduite pour vous, vous qui êtes porteur d'un handicap ou après un grave accident, vous nous appelez 0826 300 300.
Sud Radio, ça roule.
Et on accueille tout de suite le meilleur, en tout cas celui qui a reçu pas mal de prix, Monsieur Stéphane de Velter, bonjour.
Bonjour Laurence, bonjour Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors plein de prix là.
Ah oui, là c'est la collection. Là, il va falloir changer la bibliothèque, hein, Stéphane, parce que prix de l'innovation de la sécurité routière, donc ça, évidemment, pour toute l'innovation qui va permettre d'avoir moins d'accidents, une meilleure qualité de formation. Et puis récemment, le prix Automoto, notamment sur les services rendus, les success stories, c'est la catégorie dans laquelle Stéphane de Velter a gagné. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que grâce à son simulateur, il nous racontera cette histoire absolument magique de Valentin gravement accidenté de la route, qu'on donnait malheureusement perdu pour la conduite et qui aujourd'hui va très très bien et conduit.
Alors, on en parlera du handicap en deuxième partie d'émission. On parlera évidemment de cette histoire, donc restez avec nous, comme ça on vous le racontera. Mais on a voulu aussi commencer par ce que les simulateurs de conduite apportent en termes d'apprentissage de la conduite classique. D'abord un mot, Stéphane de Velter, sur votre société, sur la façon dont vous l'avez créée, où en êtes-vous aujourd'hui, que propose-t-elle?
Alors on développe depuis près de 20 ans aujourd'hui des simulateurs de conduite. Alors c'est vrai, quand je me suis lancé dans le développement d'un simulateur de conduite, je me suis dit j'ai un an de développement et puis après ça y est, j'ai mon outil. Et en fait ça fait près de 20 ans qu'on développe au quotidien le simulateur de conduite. Et si je suis arrivé sur la simulation pour mieux former les conducteurs, c'est que mon premier métier, j'étais moniteur auto-école.
D'accord.
À 20 ans, j'ai passé mon diplôme pour être moniteur auto-école. J'étais moi-même un jeune conducteur. Et dans la formation du moniteur auto-école, je me suis dit, on va au moins m'apprendre à conduire en sécurité ou on va me donner les moyens un jour de devenir un bon conducteur. Je me suis rendu compte que ça ne faisait pas partie du programme de la formation. Oui, on apprend les panneaux par cœur, les textes de loi par cœur, mais il n'y a pas ces notions de comportement et de sécurité routière. Donc j'ai dû, à titre personnel, je me suis dit, je vais me payer des stages de pilotage, pas pour être un pilote de course, pas pour rouler vite sur la route, mais ne serait-ce que pour savoir si on doit arrêter une voiture dans une situation d'urgence, on fait comment ?
Ah, c'est là que vous parlez de sécurité routière et autres, parce que moi j'ai quand même eu l'impression, quand j'ai passé mon permis, que mon moniteur m'avait sensibilisé à de la sécurité routière. Ouais. Mais là, je comprends mieux.
Mais alors, par exemple, je vais te donner une limite à cela. Moi, on m'a appris, alors c'était assez facile pour moi, puisque disons que la formation à la conduite, vu que j'avais un papa qui était moniteur d'auto-école, ça facilite un petit peu les choses. Mais par exemple, quand on te dit un freinage d'urgence, une distance de freinage, alors on a tous conscience, on nous explique qu'il faut multiplier ceci par cela, ce qu'on oubliera de toute façon. Mais on ne l'a pas expérimenté. Qui demain va expérimenter un freinage d'urgence sur autoroute lorsqu'il est lancé à 130 km/h pour voir ce que ça fait? Ce n'est pas possible.
Mais c'est vrai.
Un simulateur de conduite le rend possible. Lorsque tu es en ville et que tu as la sensation que si tu pianotes sur ton téléphone portable, tu peux quand même regarder la route, il faut le simuler pour en avoir conscience. Uh-huh. Sur le simulateur de conduite, vous pouvez prendre votre téléphone et puis être dans une situation de configuration urbaine avec des piétons qui passent, qui traversent lorsque le feu est rouge, hein, et vous pouvez vous rendre compte qu'avec votre téléphone tenu en main, vous avez un accident. Donc en fait, ce simulateur permet une réelle prise de conscience d'une réalité dont on n'a peut-être pas conscience lorsqu'on est sur la
réalité
sur
de
la
route. Ouais. Mais du coup, votre premier simulateur, vous l'avez créé quand ?
En 2004.
Parce que vous êtes le créateur.
Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Et en fait, je suis passé de l'auto-école à former les conducteurs professionnels sur circuit. Et j'étais effaré un petit peu par le comportement des conducteurs dits professionnels. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'expérience du freinage. Donc on peut faire 40 000 km par an, on ne sait pas réagir à une situation d'accident. Mais développer ça au niveau national sur des circuits avec les contraintes des véhicules, ce n'est pas possible. C'est pour ça que j'ai développé le simulateur de conduite, parce que ça permet de reproduire toutes ces situations.
Alors par exemple, oui. Juste, je mets un exemple parce que moi je suis conquis. C'est-à-dire j'ai testé ce simulateur le jour où j'y suis allé sur le simulateur, Laurent, je me suis demandé si ça allait m'apporter quoi que ce soit. Tu sais par exemple, tiens, 16% des accidents mortels en France ont lieu aux intersections sur les refus de priorité. Ça on le vit depuis des années dans Saint-Roch.
On le vit chaque jour.
Voilà. Sur simulateur, tu peux expérimenter ça, le refus de priorité. Et tu t'aperçois de la nécessité d'avoir aux intersections, quand il y a un panneau danger, le triangle, ça ne veut pas dire autre chose que ça, c'est un panneau de danger. Ça veut dire bascule ton pied au-dessus du frein, tu gagneras du temps si tu dois freiner. Ne sois pas dans une situation où tu as le pied sur l'accélérateur parce que tu ne pourras pas réagir. Eh bien ça, c'est capital.
On a tout de suite au 0826-300-300 Alain qui nous rejoint. Je vous rappelle cette question que l'on vous pose en découvrant la maison de Velter et ses simulateurs de conduite. Avez-vous confiance dans ces simulateurs pour apprendre à conduire dans les auto-écoles, oui ou non? Salut Alain.
Oui, bonjour à tous les auditeurs, à tout le monde.
Salut Alain.
Merci d'être avec nous en ce dimanche soir. Alors vous, votre position ?
Eh bien, moi je trouve que ça peut être très judicieux pour améliorer la cohabitation. Par exemple, bon, moi j'ai les permis poids lourd, super lourd, transport en commun. Et moi je trouve que à l'auto-école, on devrait apprendre après quelques heures de conduite, la difficulté qu'ont certains poids lourds, super lourds, à se désengager de certaines intersections et à manœuvrer. Moi personnellement, bon, je fais du ramassage scolaire, je fais 200 km par jour, même si un poids lourd ne met pas le clignotant, rien que la position qu'il est sur la route, je vois la manœuvre qu'il va faire. Et le système, là, ça permettrait justement de faire un peu plus en avant des formations un peu plus complémentaires pour améliorer vraiment la cohabitation, un peu comme on l'a fait avec les motards. Moi, j'ai le permis moto-voiture depuis 1976. Je vois qu'il y a une sacrée évolution maintenant. Il y a un fair play qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Et ça serait bien de responsabiliser tous les automobilistes sur la difficulté de ce qu'un poids lourd, un super lourd à la difficulté ou un bus et tout.
Des deux côtés, Alain, c'est super intéressant ce que vous dites, du côté des automobilistes comme du côté des routiers et des camions aussi, parce qu'on connaît la grosse problématique du camion, notamment en ville, hein, c'est l'angle mort, fatalement.
Oui.
Et là, Stéphane, là-dessus, Stéphane de Velter, vous avez aussi un simulateur sur les camions.
Alors là, mais il faudrait que ça soit intégré au simple automobiliste.
Je suis d'accord.
Même au motard et tout, il faudrait que comme ça permettrait d'anticiper beaucoup de choses, parce que moi je vous dis, suivant la position qu'il est, parce que j'ai conduit des véhicules lourds, je sais ce qu'il va faire, même s'il ne met pas le clignotant, même si, bien sûr il y aura toujours des exceptions, hein. Moi je vois les messageries, les petites messageries là, en petit camion, il faut voir ce qu'ils font des fois, comme les coursiers avec leurs trois roues, là, c'est du pareil au même, ils changent de direction sans clignotant et ça permettrait ce simulateur, oui, d'anticiper, d'améliorer.
Alors on va demander à Stéphane de Velter ce qu'il en pense. Merci beaucoup Alain.
On sent que l'auditeur a de l'expérience de la route et ce qu'il dit c'est très juste et pour moi, pour des conducteurs professionnels, la meilleure fonctionnalité du simulateur de conduite, c'est la fonction magnétoscope. Parce que la fonction magnétoscope permet de revoir la scène, mais elle permet de se mettre à la place des autres conducteurs. Vous savez, quand on simule une situation d'accident, on se dit, oui, mais il y a un con qui m'a coupé la route. je pouvais rien faire. En fait, quand on va se mettre à la place du conducteur, on se rend compte qu'il n'avait pas forcément de visibilité. Et c'est pour ça qu'il nous a coupé la route. Donc, c'est vraiment ce travail-là. On se met à la place des autres et on apporte un peu
derrière. On peut faire un simulateur pour les trottinettes, les vélos, les scooters,
et
les piétons.
On sait ce qui se passe. Ils passent au rouge, ils respectent rien. Ça, c'est autre chose. Mais Lolo, je reviens là-dessus parce qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que dans la fonction du simulateur, tu conduis, donc tu es au volant. Et puis, il y a une situation d'accident. Et ensuite, suite à cette situation d'accident, tu peux mettre la pause sur le simulateur et revoir la scène, ce que tu ne peux pas faire dans la réalité. Ouais. Et revoir la scène du point de vue de tous les usagers de la route qui étaient impliqués. Et donc, ça permet déjà d'envoyer ce message de tolérance sur le côté, celui qu'on a traité de mots en trois lettres, peut-être qu'effectivement, il ne nous avait pas vus. Et sur tout un tas d'autres paramètres, ou tout simplement une faute. Parce que l'erreur est humaine. Bon, ça, c'est la palissade. Mais l'erreur, ça arrive.
Bien sûr.
L'anticipation de l'erreur de l'autre, c'est ça, conduire. Conduire, c'est prévoir.
Je suis assez d'accord. Et c'est vrai qu'on se rend compte de la différence de ceux qui font attention aux autres sur la route, et donc de prévoir ce qui peut se passer. Et il y a aussi ceux qui ne font jamais attention, qui sont un peu les maîtres du monde et auxquels le monde appartient.
Je me rappelle, ça se voit un peu sur le simulateur. Quand j'ai fait le test, parce que j'avais fait une opération avec 40 millions d'automobilistes sur les routes, et puis quand ça tapait sur un refus de priorité, les gens qui étaient sur le simulateur, ils se tournaient vers moi et me disaient « Vous avez vu, hein ?» C'est pas moi qui ai fait la faute. Et je leur disais, mais oui, mais il y a l'accident, vous êtes peut-être mort là dans la situation d'accident. Et ça, c'est important à comprendre. C'est que prévoir, ça se travaille. Si on veut prévoir, d'ailleurs, est-ce que le simulateur permet de gagner une expérience pour échapper à une situation d'accident?
C'est tout l'intérêt du simulateur de conduite. En fait, on va vous montrer que, quelle que soit votre expérience, en amenant correctement les choses, vous allez vous retrouver dans une situation d'accident que vous allez penser inévitable. On va mesurer votre temps de réaction. Le temps de réaction moyen d'un conducteur en situation d'accident sur des milliers de personnes qui sont passées, c'est 1 seconde 2. 1 seconde 2 avant d'appuyer sur l'appel de frein, on constate que l'accident aurait été mortel dans la vraie vie. Si on met moins de 5 dixièmes de seconde, il n'y a pas d'accident. Et on va apporter des solutions sur comment on peut réagir en moins de 5 dixièmes de seconde quand la situation se dégrade.
On continue de parler de ces simulateurs de conduite. Émission spéciale pour nos simulateurs. Soit pour vous, peut-être, avez-vous confiance dans ces simulateurs pour apprendre à conduire dans les auto-écoles, oui ou non. D'ailleurs, si vous avez une auto-école et que vous avez déjà intégré des simulateurs de conduite, rejoignez-nous au 0826 300 300. Selon vous, quels en sont les points positifs ou les points négatifs? Et puis, avant la fin de cette émission, nous parlerons aussi du rôle des simulateurs de conduite suite à un accident grave ou pour les personnes porteurs d'un handicap. Ces simulateurs peuvent-ils permettre de recommencer à conduire presque comme avant, ou même mieux, puisque des fois on ne conduisait pas en situation de handicap. On vous attend au 0826 300 300.
Sud Radio Sarroule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
On les a vus naître depuis une vingtaine d'années. Il est avec nous, Stéphane De Velter, est l'un des créateurs des simulateurs de conduite qui vous permettent d'apprendre à conduire aussi sur simulateur, mais pour faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Avez-vous confiance dans ces simulateurs de conduite pour apprendre à conduire dans les auto-écoles ou non? C'est la question que l'on vous pose ce soir sur Sud Radio dans Sarroule. Stéphane De Velter, on va dans quelques instants accueillir Philippe qui nous appelle de l'Ain, mais vous êtes quand même conscient du coup, vous avez créé un outil qui permet de sauver des vies?
Alors, je suis persuadé qu'on a sauvé des vies grâce à cet outil. Je pense que
c'est génial hein, quand même ça.
Les conducteurs ne sont pas fous, ils n'ont pas envie de mourir sur la route, mais ils prennent beaucoup de risques. Ils prennent beaucoup de risques parce qu'ils n'ont pas imaginé ce qui pouvait se passer. Et lorsque l'événement se produit, c'est trop tard. Donc nous, on apporte une réflexion, en fait, on met dans la tête des conducteurs les principales situations d'accident. Une fois que c'est dans le cerveau, on se pose la bonne question. Passer au ras d'une voiture qui est arrêtée à un stop, il faut quand même être gonflé de passer sans ralentir. Mais on va le faire tant que notre cerveau va nous dire tout va bien, on est prioritaire. Si on a imaginé que la voiture au stop pouvait démarrer, on ne peut pas passer à 90 km/h ou à 80 avec le pied sur l'accélérateur. C'est ce que va apporter la simulation.
J'ai aussi une question, cette fois-ci elle est plus pragmatique. On a un problème de coût du permis de conduire en France, notamment pour les plus jeunes, qui doivent supporter non pas que le coût du permis, mais coût du permis, assurance, achat d'un véhicule qui a le droit de rouler, selon la classification désignée de critères, voilà, ceux qui m'entendent, hein, c'est une connerie monumentale, mais c'est pas grave. Donc tout ça est un coût pour les jeunes qui peuvent nous écouter ou pour ceux qui écoutent pour leurs enfants. Soyons très clairs, est-ce que l'utilisation du simulateur de conduite peut être aussi une réponse, notamment pour corriger un petit peu les écarts qu'il peut y avoir de conduite? Quand on fait une heure de conduite à la Ferté-Bernard dans la Sarthe, tu montes...
que tu connais bien.
Entre 10h et 11h, bon, bah, à 10h, le moniteur est là, tu es dans la voiture, à 11h, tu as fini, point. Quand tu fais une heure de conduite en plein centre de Lyon, de Paris, de Marseille, Bon, bah, à 10h, tu cherches une place pour te garer. À 10h10, tu es dans la voiture. À 10h50, il faut arrêter parce qu'il faut trouver un endroit pour se positionner. Il y a quand même un écart de formation. Est-ce que le simulateur peut gommer ça ?
Sur la partie apprentissage, apprendre à déplacer le véhicule, il faut commencer par là avant de parler de comportement et de sécurité routière. Vous êtes arrêté avec un véhicule, vous devez vous lancer à 80 km/h et puis vous arrêter. Vous allez devoir passer toutes les vitesses, puis freiner et rétrograder. Vous allez peut-être avoir besoin de vous entraîner 100 fois, faire 100 fois cet exercice. Si vous comptez sur la route, avec la circulation, avec l'environnement, il vous faudra combien d'heures de conduite pour pouvoir faire une centaine de démarrages jusqu'à 80 et arrêter votre voiture ? Si vous êtes sur un simulateur, il n'y a aucune perte de temps. Donc vous allez enchaîner et forcément vous allez réduire le nombre de leçons de conduite nécessaires pour acquérir la compétence 1 du REMC, tel qu'on l'appelle en auto-école.
C'est quoi le REMC ?
C'est le programme d'enseignement pour le permis de conduire qui est classé en 4 catégories. Et la compétence 1, c'est la manipulation du véhicule.
Ah, c'est intéressant, ça veut dire que quel que soit l'endroit où on habite en France, on a tous le même programme.
Ah, tout à fait.
Oui, c'est ça. Et alors que c'est complètement presque... Pas complètement logique. Quand j'ai appris à conduire, moi, en Normandie, dans une ville qui s'appelait Lisieux, la première fois que je me suis retrouvée sur Paris, je ne vais pas vous dire que...
T'avais plus que Lisieux pour pleurer.
J'avais plus que Lisieux pour pleurer, c'est ça. Mais c'est exactement ça, joli. Mais je ne vais pas vous dire que j'ai fait pipi dans ma culotte, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire que quand on arrive de ces provinces, et encore Lisieux était un petit bourg sympa, mais les gens qui apprennent... Vous voyez, donc c'est...
Paris reste très compliqué au niveau de
Bordeaux,
la circulation.
Ou Lille,
mais
ou
toutes
Lyon,
les grandes villes.
Toutes les grandes villes, oui.
Ça veut dire que
Marseille.
Si on passe le permis de conduire dans une grande ville, on n'a même pas le temps au niveau de l'heure de conduite de sortir de l'agglomération. Donc ça veut dire qu'on va se contenter de faire des embouteillages à certaines heures et de rouler à 30, 40 ou 50 km/h. Donc il y a forcément un manque d'expérience.
Et à contrario, quand on fait que de la campagne, qu'on se retrouve en grande métropole, on n'a plus que les yeux pour pleurer.
Un truc tout bête, est-ce que le simulateur permet aussi de corriger les écarts de temps, par exemple, je pense à conduite sur neige, je sais que c'est... On vous en a souvent parlé, Stéphane, mais c'est vrai que quelqu'un qui apprend à conduire en plein hiver, c'est pas les mêmes conditions atmosphériques qu'en plein jour pendant l'été.
Avec un simulateur
de conduite. Il fait jour l'hiver, hein, c'est juste pas les...
Non mais tu vois ce que je...
Oui, pardon, excuse-moi.
De nuit, l'hiver, c'est pas la même chose que l'été et le jour. Voilà.
Un partout.
Et attention, et tout ça avant le décalage horaire.
C'est ça.
Et les années bissextiles.
Le logiciel permet de conduire en ville, sur route, sur autoroute, de jour, de nuit, sous la pluie, par temps de brouillard, par temps de neige, et tout ça peut se changer en un seul clic. Hein. Donc ça donne toute cette souplesse aussi au niveau de la formation et de la pédagogie.
Philippe est avec nous au 0826 300 300. On laisse patienter le pauvre Philippe. Philippe au Standard de Sud Radio. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Salut Philippe.
Bonjour. Alors vous en pensez quoi, ces simulateurs de conduite ? Vous leur faire confiance ou pas ?
Ben écoutez, on va être dans la redondance parce que effectivement, quasiment tout est dit. J'ai une fille qui passe le permis et pour elle, ça serait un plus.
Ouais.
Parce qu'elle a vraiment la peur de prendre la voiture. Donc ça permettrait d'enlever cette certaine appréhension.
Elle a quel âge,
d'avoir
votre fille,
déjà une première découverte avant de prendre le volant.
Elle a quel âge, votre fille,
Philippe ?
Vous avez
parlé de la conduite sous neige, pardon, excusez-moi.
Elle a quel âge, votre fille, Philippe ?
Elle a 24 ans.
D'accord.
Elle a eu un accident ? Elle a eu...
Non. Enfin, elle a eu un accident une fois avec moi.
Non, mais voilà, elle est montée dans la voiture de Philippe, depuis, elle a peur.
Mais en plus, conduite sous neige, parce que j'habite en montagne, et d'accord, alors que je conduis sans problème sous la neige, et depuis plus de 20 ans, j'ai l'habitude, et puis une seule fois, il a suffi. Mmh. Et je pense que cette appréhension serait peut-être enlevée avec un simulateur, qui plus est.
Stéphane, là-dessus, sur cette question de l'appréhension, le simulateur, vous avez testé ces configurations avec des gens qui ont une appréhension ?
Il boit du petit lait, Stéphane, vous avez testé.
Quand on apprend à conduire, on a forcément un stress se retrouver au volant d'une voiture. Et moi, je pensais que c'était plus chez les filles qui allaient avoir ce stress et pas chez les gars qui veulent partir tout de suite en voiture.
Et
en
fait,
on se rend compte que non, ils ont tous de l'appréhension et le fait d'aller sur simulateur de conduite, c'est presque un soulagement de se dire ouf, mes premières leçons, c'est sur le simulateur de conduite.
Tu sais que je me souviens de la sensation que j'ai eue, moi. J'en avais très envie jusqu'au jour où je me retrouve, parce que j'étais au code de la route, alors je faisais le code, il fallait... Et je voulais faire les choses dans l'ordre dans ma tête. Je voulais d'abord valider mon code et
non
ensuite...
Non mais papa voilà. Moniteur.
Oui, mais je voulais faire les choses bien, c'était important pour moi. Je une seule chose à la fois, je suis monotache, moi, comme gars. Je ne sais pas mâcher un chewing-gum et marcher en même temps, hein. Je fais l'un ou l'autre. Donc, et quand je suis monté pour la première fois en voiture, cette appréhension, je l'ai ressentie, je me disais... Là, c'est pas un vélo, là. Je suis vraiment sur la route.
Ouais, moi, j'ai eu de la chance, on va retrouver Philippe, parce que je pense qu'il a d'autres choses à nous dire aussi, c'est que j'ai appris dans une famille où il y avait pas mal de campagnes, de fermes, etc. Donc, en fait, j'ai appris à manipuler un véhicule avant même de passer le permis. À 15 ans, on était déjà ou sur le tracteur, où il fallait déplacer la dodoche de papy parce qu'il fallait faire passer les vaches. Donc voilà, en gros, c'était ça. Donc moi, j'ai pas eu peur. Mais j'ai eu peur le jour du permis. Et là, mon pied, il a tremblé comme un malade. Pourquoi, comment ? C'était un truc de fou. Philippe, on vous laisse la parole, vous, par rapport à votre fille. On vous a pas laissé continuer, pardon.
Mais je vous en prie, c'est très intéressant, votre discussion. Je disais, il y a aussi un point sur le point aussi du coût financier, que vous avez parlé, effectivement, d'un permis de conduire qui coûte très cher, parce que les heures de moniteur, ça coûte très cher aussi. Et effectivement, la simulation permettrait de diminuer ce coût de permis de conduire. Et qui plus est, ben, il me semble qu'il y a une pénurie d'ailleurs de moniteurs des auto-écoles et ça permettrait de peut-être d'alléger aussi les auto-écoles aussi à ce niveau-là.
Alors là, je vais lancer un appel à tous ceux qui cherchent du boulot en ce moment. Si vous voulez une formation, ça coûte un peu d'argent, mais où vous avez la garantie de ne plus être au chômage, c'est formateur en auto-école, formateur à la conduite. Non mais c'est vrai parce qu'on en manque. Donc c'est vraiment le diplôme à passer. Stéphane, tu pourras me le confirmer dans quelques secondes. Autre point très important, le coût du permis de conduire. Je vais rappeler qu'évidemment, c'est un gros coût, mais ce coût, c'est pour toute la vie. Notre système du permis de conduire n'est pas remis en question, Alain, et ça, c'est quand même génial en France. Le dernier, ça nécessite quand même d'abaisser le coût. Sauf que pour les auto-écoles, il faut qu'elles vivent. Donc les patrons d'auto-écoles, ils n'ont pas 15 Ferrari et 18 Porsche dans le garage. Donc il faut quand même qu'il y ait une marge. C'est pour ça que nous, à l'association 40 millions d'automobilistes, on a une proposition qu'on porte à la connaissance des candidats à la présidentielle pour le second tour, d'ailleurs, qui est la portabilité du compte de formation. C'est-à-dire que, Laurence, tu as le droit à une formation, parce que tu cotises pour avoir du droit à la formation. Nous, ce qu'on propose, c'est que ce droit à la formation, que tu n'utiliseras peut-être pas, que je n'utiliserai pas, on puisse le porter pour nos enfants.
Ah, parce que c'est déjà possible pour nous.
Exactement.
Enfin, les gens qui n'ont pas le permis aujourd'hui peuvent le passer sous
le compte de formation. Voilà. Mais nous, on a déjà ça.
Ouais.
On n'en a pas besoin. Par contre, nos gamins, eux, ils en ont peut-être besoin. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens de financer ce coût du permis de conduire, plus la voiture, plus etc. Donc, on propose cette mesure qui permettrait de faire en sorte que les jeunes aient davantage le permis, parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas besoin de voiture, les jeunes ne le passent plus. Mais quand ils arrivent à Pôle emploi, la première question, c'est avez-vous le permis de conduire? Ça, c'est capital. Donc, on propose ça pour que le manque à gagner qui peut être généré par moins d'heures de conduite, même si c'est tant mieux, c'est pour tout le monde, eh bien, ce soit compensé par plus de jeunes qui passent leur permis de conduire. Stéphane.
Ça me semble une excellente idée.
On signe la pétition, nous, de 40 millions d'automobilistes, voilà, Pierre Chasseret.
Allez, les candidats à la présidentielle, hein, vous savez
Il en reste plus que deux, là, pour dimanche
prochain.
Ceci étant dit, ça n'empêchera pas qu'il faudra continuer à le proposer par la suite.
Alain, ça vous
Philippe,
dit
vous êtes... C'est Philippe Delain. Philippe qui habite dans l'Ain.
C'est Philippe Delain.
Philippe Delain,
C'était Alain avant, voilà. Et ça vous paraît comment, cette idée? Vous aussi, vous en avez un compte formation? Vous êtes embêté par les appels téléphoniques?
Alors moi, je suis très particulier. Moi, je travaille en Suisse, donc je n'ai pas du tout ce compte-là. Mais mon épouse, qui est au chômage récemment, je vais parler éventuellement pour peut-être utiliser son compte de formation, mais elle, pour devenir monitrice auto-école. Éventuellement, si ça peut être possible.
Sinon,
par Pôle emploi. Oui. Donc là, dans ces cas-là, ce serait intéressant.
C'est génial. C'est un métier dont on ne parle pas assez.
Une question, Stéphane De Velter. Ça coûte pas plus cher d'apprendre à conduire sur un simulateur de conduite que sur... ça fait partie d'un package pour les auto-écoles qui le font? Comment ça se passe? Ou c'est plus cher?
Il y a différentes utilisations. Enfin, généralement, c'est plutôt moins cher l'heure de conduite sur simulateur de conduite.
Pas d'essence, hein.
Voilà. Enfin, technologie quand même.
Et puis, il n'y a pas forcément toujours la nécessité d'avoir la présence du moniteur pendant toute la leçon. Alors, moi, je ne veux pas que ça soit un simulateur qui soit totalement en auto-formation. Ouais. Je trouve que ce n'est pas pertinent. Il faut qu'il y ait un accompagnement du moniteur auto-école, du pédagogue. Mais on n'a pas forcément besoin d'être 100% du temps. Donc, j'ai pris l'exemple de démarrer 100 fois pour lancer une voiture à 80 km/h. Que le formateur soit là pour les premiers démarrages, pour bien valider que mes procédures sont les bonnes. Donc, je vais m'entraîner sur une bonne base.
Et
après, on peut me laisser faire. Et à la fin, pour pouvoir valider qu'effectivement, voilà. Donc, c'est toute une organisation et des auto-écoles qui se déroulent très, très bien dans leur organisation pédagogique. C'est un outil pédagogique, ça ne va pas remplacer le moniteur.
C'est ça,
il faut vraiment que ça
soit
l'accompagné.
Parce que certaines personnes pourraient se dire, attendez, ça ne remplacera jamais la vraie route, le vrai volant, maintenant on est beaucoup en boîte auto, mais vrai passage. Il y a des anciens ou des personnes qui vont se dire, c'est pas la réalité.
Attention, tu as une boîte de vitesse, t'as tout dessus, mais je vais rappeler quand même une chose, je ne vais pas faire de la pub, je ne vais pas citer l'auto-école, mais tu sais qu'il y a un classement des auto-écoles en France, ça existe, on sait quelle auto-école a les meilleurs résultats. Et bien bizarrement, tu prends sur Paris l'une des top 5 meilleures auto-écoles, pour ne pas dire la meilleure. Bizarrement, elle est équipée de simulateurs. Et devine les simulateurs de qui?
De chez Develter.
Eh ben voilà.
Après, voilà, Paris n'étant pas la France, hein, y en a sans doute partout ailleurs. Ah, vous êtes installé dans combien d'auto-écoles en France?
C'est pas notre marché le plus important. On parlera d'autres marchés qui sont certainement plus conséquents. On doit avoir une bonne cinquantaine d'auto-écoles qui sont équipées de nos équipements, dans la mesure où moi j'ai fait le positionnement d'avoir un poste de conduite qui ressemble à un vrai poste de conduite. D'accord. Avec des grands écrans, voilà. Avec des logiciels qui sont performants, parce qu'on peut trouver sur le marché des jeux vidéo et des volants de table. Je ne considère pas que c'est un outil professionnel, donc je ne veux pas rentrer dans cette catégorie.
Et à chaque fois, ça représente bien le risque des autres sur la route. Moi, je me souviens toujours que mon fils me disait quand il passait le permis, j'ai pas peur de moi, maman, j'ai peur des autres. Dans vos simulateurs, il y a une vraie réalité à ce niveau-là?
Alors, et c'est pour ça que pour moi-même, dans le module auto-école, oui, il y a la première partie compétence 1, apprentissage mécanique, déplacement du véhicule, mais ça serait quand même dommage et pas normal de s'arrêter là au niveau de la formation. Il faut vraiment intégrer toutes les notions de comportement, de sécurité, de mise en œuvre de ces mesures qui permettent d'éviter l'accident, parce qu'en parallèle, ça fait travailler l'aspect mécanique aussi, hein. Donc, il faut vraiment arriver à associer les deux.
Merci beaucoup Stéphane, vous restez avec nous hein, puisque Pierre c'est une spéciale simulateur de conduite. Merci beaucoup à Philippe qui habite dans l'Ain également et Alain de l'Aveyron d'être intervenu au 0826 300 300. On continue dans quelques instants de parler de ces simulateurs de conduite, mais particulièrement suite à un accident grave, peuvent-ils nous aider à réapprendre à conduire et à être en situation de confiance, ou même suite à un handicap? On en parle dans quelques minutes sur Sud Radio. A tout de suite.
Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et nous sommes ensemble ce dimanche soir pour parler des fameux simulateurs de conduite. Alors juste avant de revenir sur le sujet, je vous rappelle que dans quelques minutes, vous aurez la parole pour échanger avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Vous voulez lui parler de tout, de la politique routière, de ce que vous aimeriez qui change ou qui ne change pas. Vous venez, un coup de gueule, un coup de cœur, vous venez en parler avec Pierre Chasseret. Vous vous inscrivez tout de suite au 0826 300 300 ou par mail. Vous pouvez réagir sur la boîte mail jeparticipe@studradio.fr. Vous mettez bien ça roule dans l'objet de votre mail, l'objet de votre question ou ce que vous voulez raconter, et bien sûr vos coordonnées, et nous vous rappellerons pour les futures émissions. Allez, on revient sur les simulateurs de conduite, Pierre, parce que, et on en parle depuis le début de notre émission, la question qu'on avait envie de poser, en tout cas la mienne, c'est: est-ce que les simulateurs de conduite peuvent réapprendre à conduire après un accident grave? Est-ce qu'ils peuvent, d'ailleurs quand on est en situation de handicap, aider à apprendre à conduire et puis à se sentir bien? On en parle entre autres parce que, avec la maison Develter, dont nous invitons le CEO, le président creator, Stéphane Develter, il y a eu une très très belle histoire avec un jeune homme qui s'appelle Valentin. Tu peux nous raconter cette histoire?
Oui, Stéphane le fera beaucoup mieux que moi au niveau de la rencontre, parce que je sais que c'est une histoire qui l'a particulièrement touché. Parce que, comme il me dit, il m'a expliqué que lorsqu'il a imaginé le simulateur, il avait imaginé tout un tas de fonctionnalités, mais pas celle-là. Et cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est quelqu'un, Valentin a eu un grave accident de la route. Il était officiellement déclaré comme sans doute inapte à la conduite pour les années à venir, ce qui est très complexe, hein, parce que la conduite, c'est l'indépendance, c'est absolument capital dans une vie, c'est l'accès à l'emploi, voilà, on ne va pas revenir, tout le monde sait ce qu'est la conduite. Et Stéphane a rencontré Valentin, qui l'a accueilli sans médiatisation, sans rien, voilà, dans son bureau à Montigny-le-Bretonneux, à Voisins-le-Bretonneux, pour être très précis. Et puis aujourd'hui, Valentin conduit. Valentin va bien. Valentin a une vie comme toi, comme moi. Voilà. Et Stéphane, je pense que, objectivement, tu raconteras beaucoup mieux que moi cette rencontre avec Valentin. Comment tu l'as perçu, ce jeune qui vient en situation de handicap? C'est sa maman qui prend contact avec toi, je crois.
Oui, c'est voilà, parce que moi je travaille pas avec le particulier. Et puis un jour j'ai un appel d'une maman qui me dit voilà, mon fils Valentin a eu un grave accident de voiture et je voudrais savoir s'il va être un jour capable de reconduire un véhicule. Et l'heureux hasard, elle habite dans la même localité que nos bureaux. Donc je lui ai dit, bah, écoutez, à titre exceptionnel, vous venez avec Valentin et puis on va faire un test. Et là, elle me raconte l'histoire de Valentin qui avait 26 ans à l'époque, grave accident de voiture, plus d'un an et demi de rééducation. Il est toujours en rééducation. Valentin, pour sa vie, pour vivre, il se dit, je veux récupérer mon permis de conduire. Donc on l'envoie en test dans une auto-école. Et après 2 heures de test, on dit à Valentin,
c'est mort.
C'est mort, c'est fini, tu ne reconduiras jamais.
Il est touché où?
Ah ben, il a un handicap au niveau de la jambe, au niveau du bras et un petit peu au niveau du cerveau avec le coma. Il a été victime du coma également. Donc, je dirais, quand je fais le test avec Valentin, moi, je me dis, je suis persuadé qu'il peut reconduire. Je l'annonce à Valentin en disant, moi, je suis sûr que tu peux récupérer ton permis de conduire. Et c'est vrai que l'aspect humain, allez, dans cette démarche, elle est importante. Je ne fais pas un aspect financier. Et je me dis à Valentin, tu vois, j'ai des équipements. Moi, l'expérience, elle m'intéresse de toute façon, pédagogiquement et humainement. Donc, j'ai mis à disposition de Valentin nos simulateurs de conduite. Je l'ai accompagné pour qu'il s'entraîne. Il a eu une progression énorme parce qu'au départ, Valentin rate la pédale de frein et on ne peut pas se permettre de rater la pédale de frein avec son handicap. Donc on a travaillé la force dans la jambe et son temps de réaction, les analyses, etc. Et il a progressé de façon incroyable. Donc après, et c'est là aussi, ça positionne bien l'outil simulateur de conduite. Hein, c'est pas tout à fait comme une voiture. Il ne faut pas le prendre comme étant une voiture réelle. Mais le travail qu'on a fait là, c'est ce qui a permis de dire, Valentin, moi, je travaille avec des gens du circuit Beltoise qui utilisent aussi, ils ont un circuit, mais ils utilisent aussi nos simulateurs de conduite. J'ai eu le circuit gratuitement. J'ai fait conduire Valentin avec une voiture et sans double commande. Ce que j'ai vu sur le simulateur, je l'ai retrouvé sur le circuit. Ça ne pose pas de problème. Alors, puis après, en auto-école.
Je précise parce que ça en dit long sur le bonhomme. Moi, ce que j'aime dans cette histoire, mais je ne suis pas étonné parce que Stéphane, je le connais depuis 2012 maintenant, et je ne suis pas étonné par cette histoire. Mais ce que je trouve magique dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt économique, il n'y a pas d'intérêt financier. Il y a juste de l'humain, c'est-à-dire que tu as été donné de ton temps parce que tu t'es dit, cette expérience-là, tu as été touché par l'expérience déjà et par le cas de Valentin. Sauf qu'aujourd'hui, le combat que Valentin a mené brillamment pour être aujourd'hui un automobiliste comme toi, comme moi, prudent sur la route, eh bien ce combat a été mené aussi en coulisses par Stéphane. Et je trouve que ça montre la pertinence du simulateur, parce que je pense que Valentin devait avoir la crainte aussi, l'appréhension de l'échec, qui a peut-être aussi conduit au fait qu'il rate la pédale de frein le premier jour.
Non, il y avait un problème physique. C'est
lié, à son handicap. Et donc l'entraînement, la répétition, faire sur simulateur.
Aujourd'hui, il reconduit normalement.
Il a
une voiture normale.
On lui a redonné son permis pour 6 mois, puis on a renouvelé pour 1 an. Et là, depuis quelques semaines, il a récupéré définitivement son permis de conduire.
Alors, moi, la question que je posais, c'était, pensez-vous que les simulateurs de conduite peuvent réapprendre à conduire après un accident grave ou quand on est en situation de handicap? On va accueillir Olivier, qui nous appelle au 0826-300-300. Et vous allez voir tous les deux que Olivier, merci d'être avec nous, Olivier, déjà.
Mais bonjour, je suis ravi de vous avoir à l'antenne, bien sûr.
Salut, Olivier. Alors, le standard me dit que vous êtes kinésithérapeute et aussi un grand passionné d'automobile.
Et oui, je suis un passionné d'automobile, plus exactement de Porsche. Moi, depuis petit, mon papa m'a élevé là-dedans, donc c'est un mécanicien qui était passionné de Porsche, donc
vous
il m'a transmis cette passion-là.
Il nous vient d'où, ce joli accent ?
Du sud. Ouais. Je suis en Provence, moi.
Ah, vous êtes où en Provence ?
Je suis près de Saint-Rémy-de-Provence, entre Saint-Rémy-de-Provence et Avignon, dans les Alpilles.
Les Alpilles. Alors, Olivier...
Saint-Rémy-de-Provence plus Porsche, ça va. Pour l'instant, tout va bien.
Mais je suis d'origine corse, donc c'est encore mieux la Corse pour promener en voiture.
C'est vrai que c'est assez joli. Mais Saint-Rémy, c'est bien aussi. Hein. Puis alors, il y a pas mal de jolis domaines viticoles. Hein, le domaine Milan, par exemple, le Mas de la Dame.
On ne peut pas faire les deux en même temps, par contre.
Il en faut un troisième.
Non, c'est vrai, il m'en faut un troisième. On va descendre un petit peu. On va aller du côté des Tendeberg avec le domaine Sulose. Allez, go.
Par exemple.
ou la Roquefourcade. Allez, un quatrième, pas très loin d'Aix-en-Provence. Dites-moi.
Comme ça, vous êtes tranquille pour la publicité. Écoutez, je voulais simplement intervenir sur deux aspects. Moi, d'un point de vue professionnel, évidemment, le simulateur a toute sa place dans la réadaptation à l'effort, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. Vous avez un travail de rééducation qui va tout simplement faire le diagnostic dans un premier temps des séquelles que présente le patient. Une fois que c'est fait, l'idée est d'améliorer les fonctions du patient pour en tirer le maximum possible pour sa vie future. Et le simulateur de conduite fait partie de cet outil de travail qui sera à utiliser évidemment pas en première intention puisqu'il va d'abord falloir faire un travail très long de récupération, surtout dans les accidents de la route ou d'autres, hein, AVC, il n'y a pas que la traumatologie qui rentre en ligne de compte, il y a aussi tout ce qui est neurologique. Il y a des gens qui font des MIPJ et qu'on arrive à récupérer très bien et je pense que le simulateur peut leur permettre aussi de franchir deux étapes, une étape de physique et une étape psychologique, puisqu'en effet, de se retrouver derrière un volant avec un handicap, c'est un effort sur soi-même. Donc, il faudrait qu'il y ait un accompagnement. Et là, c'est clairement, ce que j'ai entendu, c'était chouette parce qu'on entend parler plus l'humain que le professionnel. Alors, on met nos compétences au service des humains, même si on est des professionnels, hein, c'est sûr. Mais la relation humaine et de confiance avec le patient, c'est essentiel pour obtenir des résultats dans une rééducation et c'est essentiel pour une réadaptation à la vie du quotidien. Donc, les simulateurs, les pilotes de Formule 1 les utilisent depuis très longtemps, les pilotes de rallye aussi. Ça s'est démocratisé, c'est venu, bien sûr, à l'avion aussi. Mais je n'ai pas pratiqué, donc je n'en parle pas. Et par contre, voilà, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, on peut avoir accès à des simulateurs de très bonne qualité, y compris chez soi. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à travailler main dans la main avec ces technologies-là pour aider les patients à retrouver une forme d'autonomie. Alors évidemment, après, il faut faire un diagnostic précis parce qu'il y a des patients qui malheureusement peuvent pas y accéder. Il faut être honnête et le verbaliser aussi. Mais par contre, il ne faut pas se fermer de porte. La médecine nous a appris au moins une chose, c'est qu'il y a des choses très surprenantes auxquelles on ne s'attend pas.
Oui,
donc il faut y aller, il faut essayer et ça donne en plus une énergie folle aux patients et un gros moral. Donc il faut travailler sur toutes les possibilités qui s'offrent à nous.
Alors attendez, parce que ce que vous dites, alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique et loin de là, et ne m'en voulez pas ni vous Olivier, ni Pierrot, ni vous Stéphane, mais ça voudrait dire que même ces simulateurs de conduite auraient peut-être permis de recréer très rapidement des connexions.
Mais oui, bien sûr.
Si vous voulez,
tout ce qui stimule le patient,
connexion neuronale, ouais, cognitive.
Voilà, tout ce qui stimule le patient est bon à prendre.
Wow.
Après, il faut juste identifier la contrainte aussi morale et psychologique. Si vous avez quelqu'un, évidemment, qui a 80 ans, qui a eu une prothèse de genou, c'est plus simple, si vous voulez, qu'un enfant de 18 ans qui a eu un accident de voiture et qui est paraplégique. Vous voyez, il y a vraiment chaque cas de figure est particulier. Donc, il faut évaluer le patient. Et par contre, il faut se rapprocher de gens comme vos intervenants qui, clairement, ont une relation humaine avec les patients.
Et ça vous dirait, Olivier, vous êtes kiné, vous avez votre cabinet, ça ne serait pas une bonne idée? Alors, après, c'est une histoire de budget, on est d'accord, mais d'avoir un simulateur de conduite dans un cabinet de kiné?
Alors, si vous voulez, l'idée, en fait, c'est le coût n'est pas très élevé, puisqu'en fait, on peut très bien mettre une télé. Enfin, je ne veux pas faire publicité, parce que là, je vais citer une marque, et je n'ai pas de complément comme pour les domaines vinicoles. Donc, une PS, vous mettez un siège, et déjà, vous avez une possibilité de voir si le patient arrive à appréhender les distances, à appréhender les distances de freinage, à appréhender une courbe, voilà. Déjà, vous pouvez au moins commencer par ça. Après, le matériel qu'on peut utiliser en cabinet, évidemment, est certainement très loin de ce que utilise votre intervenant.
Par exemple, Stéphane.
Moi, la question que je vais vous poser, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec des... Et voilà.
Stéphane, tiens. Là, et pas que pour les kinés, mais pour tous ceux qui écoutent l'émission ce soir, je suis sûr qu'il y en a qui se disent, mais où est-ce que je peux trouver un simulateur pas très loin de chez moi?
Simple pour tous ceux déjà, je prends la parole avant Stéphane, si vous avez besoin soit, que vous nous écoutez, vous envoyez un petit mail à 40 millions d'automobilistes via la rubrique contact, et là on va vous répondre et vous mettre en contact directement avec Stéphane. Ça sera le moyen aussi le plus simple. Stéphane.
Ou je participe à @sudradio.fr en mettant ça roule dans l'objet.
Stéphane, alors il faut répondre à toutes les questions de notre kiné préféré.
Alors, la suite, on va dire, de Valentin, c'est de dire on va développer un poste sur mesure avec toutes les adaptations, donc adapté à la rééducation. Donc ça va vous parler, c'est accélérateur à gauche, cercle volant, commande tirée poussée, boule multifonction. Donc on a tous ces accessoires.
Je suis perdu.
Et avec... moi aussi.
Alors, boule multifonction, ça c'est celle qui est sur le volant pour conduire à une main.
Vous ne nous avez pas vu, Stéphane, mais on s'est regardé d'un seul coup.
Je reprends et je détaille un petit peu plus. C'est-à-dire que si votre jambe droite ne peut pas permettre d'accélérer et freiner, c'est pas pour autant que la conduite s'est perdue pour vous pouvez peut-être utiliser la jambe gauche. Donc on peut mettre un accélérateur côté gauche si on va utiliser la pédale de frein, et ça demande un entraînement. Si on ne peut pas utiliser les membres inférieurs, on peut très bien mettre un cercle volant qui va servir d'accélérateur, et on a des commandes dites tirer, pousser, qui permettent, en appuyant sur une barre, en fait, de freiner le véhicule ou de l'accélérer. Et on peut le mettre côté droit, on peut le mettre côté gauche. Et si vous n'avez qu'une seule main, comment vous faites pour tourner le volant, pour mettre le clignotant, pour mettre les essuie-glaces? Eh bien, vous avez une boule multifonction qui est très complexe à utiliser, mais vous avez tous les accessoires dont vous tournez le volant et vous utilisez les accessoires. Ça aussi, ça demande, je dirais, un entraînement, une adaptation. En fait, nos simulateurs, on est vraiment comme dans un véritable véhicule. Vous avez des équipements, des fournisseurs qui et c'est monté sur les véhicules de façon à préparer le patient à utiliser correctement son véhicule.
Voilà la différence entre une PlayStation et puis un simulateur. Voilà.
On a compris, Olivier. Hein.
Moi, si vous voulez, j'ai lancé la question pour avoir les informations.
Mais je vous taquine.
Déjà, évidemment.
Je vous taquine. Voilà.
Mais par contre, c'est très peu répandu. Le coût pour transformer son véhicule est élevé. Donc, vous voyez, on a encore d'autres épreuves à traverser.
Ah, il y a du boulot.
Et d'autres améliorations d'ailleurs, pour que les gens handicapés puissent accéder.
Il y a des auto-écoles qui sont équipées en voitures spécialisées.
Mais bien sûr, c'est tout à fait juste. Mais par contre, pour transformer son véhicule, je vous assure que c'est quand même très, très onéreux.
Et
tout le monde ne peut pas le faire. Il faut faire des choix dans nos sociétés.
Et plus on fait baisser les prix aussi. Hein. Démocratiser, c'est le meilleur moyen de faire baisser les prix.
Avec Pierre, on s'est toujours dit qu'on voulait faire, merci beaucoup à Olivier de votre intervention, une émission spéciale.
Je vais reprendre mes consultations.
On vous embrasse. Mais ne vous excusez surtout pas et vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous êtes ici chez vous. Moi, les gens qui font du bien, qui sont intelligents et qui apportent des vraies solutions et un côté très positif au regard sur les choses... Moi, je prends tout le temps. D'ailleurs, on devrait faire une émission comme ça. Ce qui est important, là, pour ceux qui nous écoutent, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de notre rendez-vous sur ce sujet, nous, on voulait faire toujours un sujet sur le handicap, parce que ça nous paraît très important. Aujourd'hui, on peut trouver vos simulateurs spécialisés où, auprès de quel...
Alors aujourd'hui, sur la rééducation, on a installé plus de 40 machines en France dans les centres hospitaliers. Donc, sont déjà bien implantées. On devrait être entre 80 et 100 machines d'ici la fin de l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se déployer, puisque donc on a un distributeur qui est la société Medimex, qui est sur Lyon, mais qui est présent au niveau national et qui sont bien connus des centres hospitaliers, qui nous apportent aussi une crédibilité. Et donc, c'est eux qui distribuent nos simulateurs pour la rééducation. Et ça nous met en lien direct aussi avec les ergothérapeutes, avec les neuros, et on a fait des développements spécifiques au niveau des logiciels pour bien s'adapter aux besoins et aux attentes des ergothérapeutes notamment.
Wow.
Ben c'est marrant parce que tu vois, on a passé ça en revue et puis je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai qu'une seule question qui me vient à l'esprit, mais on va refaire une émission, c'est obligé parce qu'on a parlé du handicap. Mais on a tous une autre question à laquelle on sera tous soumis, vieillir et conduire.
Ah,
est-ce que le simulateur, mettez-nous l'eau à la bouche, est-ce que ça permettra de peut-être retarder un petit peu le moment où on sera moins en capacité de, ou peut-être avoir une meilleure prise de conscience de nos capacités de conduite ?
Alors, on commence toujours par, on va dire, une évaluation, mais je ne veux pas une évaluation type auto-école à Valentin en disant c'est fini, on va faire un constat.
Ah, oui.
Et
ouais.
À partir de là,
c'est
on
terrible,
va...
C'est terrible ça d'ailleurs.
C'est aberrant.
Mais il y a plein de choses comme ça.
Et en fait, nous, c'est de faire l'état des lieux et c'est de proposer après un programme et des exercices qui sont bien adaptés sur le simulateur pour pouvoir faire progresser, pour pouvoir mesurer la progression et généralement, et de toute façon on a cet objectif de permettre à la personne de conduire et de conduire en sécurité. Si je prends les seniors, c'est pas pour faire 50 000 km par an, donc on n'a pas besoin d'avoir une expérience et une expertise d'un professionnel.
Parce que tu sais Stéphane, tu as aussi beaucoup de personnes âgées qui reprennent la conduite après plusieurs années sans avoir conduit. Alors, parfois parce qu'un des conjoints est malheureusement décédé, il faut qu'ils reprennent le volant et ils ne se sentent peut-être pas capables de le faire. Peut-être que le passage vers le simulateur et après des maladies aussi, peut-être que le passage vers un simulateur puis une auto-école peut leur permettre ça.
La société s'appelle Develter, on peut tout trouver sur develter.com, D-E-V-E-L-T-E-R, et n'oubliez pas la phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Donc si un jour quelqu'un vous dit « C'est fini pour vous », peut-être que ce n'est pas vrai. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
Et n'oubliez pas celle de Benzema. Avec Mbappé au Real, on met deux fois plus de buts. Peut-être trois fois plus, d'ailleurs.
On vous embrasse, Stéphane. Restez avec nous, l'émission n'est pas complètement terminée. Voici le moment de l'échange avec Pierre. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Ça roule. Soyez prudents sur les routes en ce dimanche soir.
Sud Radio, ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret.
Et pour terminer notre rendez-vous de ça roule en ce dimanche soir, eh bien vous le savez, tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec Pierre qui garde évidemment sa casquette, ça roule, Sud Radio et 40 millions d'automobilistes. Pour échanger avec vous, voici le moment donc de l'échange, 0826 300 300. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour échanger avec Pierre prochainement, vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous mettez bien ça roule dans l'objet du mail et bien évidemment vos coordonnées que l'on vous rappelle. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Oh, quelle jolie voix. Vous êtes à Boulogne-Billancourt dans le 92 où l'on écoute Sud Radio sur le 99.9. Je vous laisse en compagnie de Pierre.
C'est bien la première fois qu'on me dit que j'ai une jolie voix. Merci.
Mais oui, je le pense.
Et moi, je peux même vous filer son portable.
Moi, ça ne m'apprécierait pas, mais...
Bon. Je suis en numéro masqué, moi.
Faut pas le dire, c'est bon.
Bon, allez, on y va, les garçons.
On coupera l'émission.
Allez, on y va, les garçons, on vous écoute.
Bon, très bien. Écoutez, Moi, j'ai un sujet sur tout ce qui est question de sécurité routière, de circulation, qui m'en vient souvent en tête. Et aussi souvent que je rencontre le souci, pour moi, ce sont les feux tricolores, que je trouve très souvent inutiles, voire dangereux. Pour vous donner un simple exemple, au bout de ma rue, j'ai un feu tricolore qui donne accès et qui donne directement accès à un rond-point. Alors, première chose, on se demande pourquoi il y a un feu tricolore sur un rond-point qui est censé déjà réguler la circulation. Et deuxième chose, ce feu est extrêmement court au vert et extrêmement long au rouge. Ouais. Donc, dès qu'on veut sortir de chez nous, prendre la voiture, on sait qu'on va se prendre 5 minutes dans les carreaux à cause de ce feu de circulation.
Marcel Samba ?
Et pas tout à fait, non. Même si c'est un sujet, c'est celui qui est au niveau de la Seine, en bas du boulevard Jean Jaurès.
Après, ça arrive dans d'autres villes de France. Ouais, hein, ouais. Moi, la mienne, j'en ai un aussi comme ça.
À Nîmes aussi.
Il y en a partout.
On a ça. C'est vrai que
c'est une vraie question. Hein.
J'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que c'est parce que c'est un échec sur l'apprentissage, notamment des ronds-points, des sens giratoires, des carrefours à sens giratoires, où qui ont été créés pour fluidifier le trafic, hein, et où au final, on s'aperçoit qu'on a une catégorie d'usagers qui, quoi qu'il arrive, même quand il n'y a personne, s'arrête. On ne sait pas pourquoi. Donc après le doublé d'un feu tricolore, j'ai l'impression que c'est l'échec de ce rond-point. C'est que le rond-point ne fonctionne pas sur la fluidité, donc on est obligé de le doubler par un système de feu. Et après, vous posez une question qui est super pertinente sur les feux. Est-ce qu'on doit les supprimer ou pas? Est-ce que vous savez, enfin oui, vous le savez, Quentin, peut-être, il y a des villes qui sont en train d'expérimenter le retrait de tous les feux tricolores. Vous étiez au courant ou pas?
Ah oui, il y a eu Abbeville, en Normandie. Je crois qu'il y a eu un essai dans les Deux-Sèvres.
Abbeville, ouais. c'est pas en Normandie, Abbeville. Hein.
Il y a Paris.
C'est là où,
pardon, oui.
Ouais,
pardon.
C'est en Picardie, c'est dans la Somme.
Alors, c'est plutôt Paris, en Picardie.
Paris se positionne.
Pardon,
pas souci, je vous taquine.
Paris
pardon
se positionne.
À tous les concernés.
C'est pas la Somme.
Et c'est intéressant dans la capitale parce que pour le coup, en fait, à Paris, il n'y a pas de stop. Il faut savoir, il n'y a aucun panneau stop. Il n'y en a plus depuis 2000, entre 2013 et 2016. Donc Paris est en train d'imaginer et a voté en 2017, si ma mémoire est bonne, la suppression des feux de tricolore, la possibilité de supprimer des feux de tricolore pour réinstaurer des stops. Sauf que j'ai l'impression qu'à Paris, il y a toujours une mauvaise intention. C'est-à-dire que derrière, c'est peut-être pour créer un petit peu le bins et créer encore des embouteillages. Mais en tout cas, dans des villes moyennes, ce sont des expérimentations qui peuvent être utilisées, parce que j'avais fait un calcul sur le temps que l'on passe arrêté dans notre vie au feu rouge. C'est de la folie. C'est de la folie. Surtout quand on voit des petites villes parfois où tu as des temps d'arrêt mais qui sont longs, où il n'y a personne qui passe. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on est arrêté
comment
au feu,
comment on calcule d'ailleurs le timing? Moi, on m'a toujours dit qu'une temporalité de feu rouge, c'était 30 secondes. Mais moi, les miens, ils font 1 minute 10.
Alors, il y a la règle des 120 secondes. La règle des 120 secondes, c'est une règle qui est importantissime dans le temps de réglage des feux, c'est que si le feu est au rouge plus de 120 secondes ou s'approche des 120 secondes, il y a la tentation chez certains automobilistes de passer
démarrer.
Quand même, ce qui est un drame. Hein. Ouais. Je ne suis pas en train de cautionner.
Non, mais c'est scientifiquement prouvé. Voilà, au niveau cognitif, il y a un truc qui...
C'est comme ça. Okay. Pour que le temps soit acceptable et qu'il soit respecté, parce que c'est ce qu'on veut. On veut que le temps soit respecté et que les gens qui soient arrêtés au feu soient vraiment arrêtés. Je vais profiter pour la première fois dans ce timing, je vais profiter de la présence encore de Stéphane de Velter à nos côtés pour avoir son sentiment sur notamment le retrait des feux tricolores ou l'usage du feu tricolore et son intérêt en termes de sécurité routière, Stéphane.
Je suis incapable d'évaluer la pertinence ou non-pertinence de cette expérimentation.
Parce qu'on est tellement habitués, nous on a toujours vécu
avec des
feux rouges.
Ça n'a jamais été remis en question, le feu tricolore.
Alors, c'est pas pour ça que ce n'est pas une bonne remise en question, mais c'est compliqué d'avoir un avis, là.
Oui, bah oui, tout à fait. Donc, oui.
Moi, je
on est habitué.
Si ça peut vous aider, il y a eu des résultats sur Abbeville et sur Niort, puisque ça a été fait il y a quelques années. Et les résultats, c'était la baisse du nombre d'accidents.
Oui, mais ça baisse partout. Donc vous voyez,
oui, effectivement, mais des articles que j'ai pu lire, c'était lié La suppression des feux rouges. Derrière, pour mesurer tout ça, je comprends que c'est compliqué.
Vous savez, Quentin, le problème, c'est quand un élu met en place une mesure...
Quentin,
je le pose exprès. mais vous savez, Quentin, donc, lorsqu'un élu met en place une mesure, c'est rare que 2 ans après, il dise « je me suis trompé ».
Mais
en tout cas, expérimenter peut être intéressant tant que ce n'est pas au détriment de la sécurité. Vous savez, l'excès est toujours... condamnable. En fait, c'est l'excès de feu qui crée l'irresponsabilité, le fait que ça ne soit pas respecté. Là, dans votre exemple, celui que vous avez en tête, parce que vous perdez un temps monstre, c'est-à-dire le feu qui donne sur le rond-point.
Moi, j'ai
envie de dire aux élus, choisissez les gars.
Pire. Dans ma commune, que je ne nommerai pas, j'ai un rond-point énorme, qui est le rond-point central de la ville. Le feu est à la sortie du rond-point. Voilà. Donc, vous sortez du rond-point, il y a un feu rouge, 1,5 mètre. Donc, ça bloque complètement le rond-point parce que le feu passe au rouge. On est tous bloqués des deux côtés.
Sur le papier, ça paraît quand même couillon.
Faut
être honnête.
Alors, il n'y a pas que sur le papier. Et alors, quand on en a parlé à la mairie, oui, mais c'est un passage piéton. Eh bien, gars, décale un peu ton passage piéton. Enfin, c'est. Oui, d'accord, ok. Mais vous rentrez sur le rond-point, il est énorme. C'est le plus gros de la ville. Et tout le monde est bloqué parce que les deux feux passent au rouge. On ne peut plus sortir.
Je vais faire un tour avec l'assaut.
Vous vous souvenez des Snows? Le sketch sur le rond-point c'était le prénom, c'était pas Robert, c'était De Vos d'ailleurs. C'était incroyable. Merci Quentin.
Laurence, on va peut-être aller faire un petit tour par chez toi, comme ça nous donnera l'occasion de nous voir.
Ce rond-point, il est dingue.
Mais un feu en sortie de rond-point, j'en ai vu des choses.
Il y en a deux,
pas encore.
De chaque côté.
Le
rond-point, il y a 6 ou 7 rues qui arrivent. La principale à sortie à droite, à gauche, feu.
Voilà.
Et voilà, c'est
la blagounette.
Ah bah c'était chez nous, c'est chez moi. Bon allez, merci beaucoup Quentin d'être intervenu et nous avoir permis de... Bah oui, parce que c'est un vrai souci quand même, ces feux rouges, on ne comprend pas tout. On vous embrasse, merci Stéphane d'être resté avec nous jusqu'au bout.
Merci à vous de nous avoir reçus.
La maison De Velter des simulateurs de conduite qui ont reçu le prix de la sécurité routière et le prix...
L'innovation de la sécurité routière et le prix automoto.
Automoto pour ces simulateurs de conduite. Salut Pierrot, on ne se retrouve pas dimanche prochain parce qu'il y aura les élections second tour. Émission spéciale sur Sud Radio pour le second tour.
Pour suivre le vainqueur de l'élection présidentielle.
Bonne semaine
et nous,
à tous.
Une semaine après, et on décortiquera tout ça d'ailleurs.
Oh, on verra.